Maurice Talmer, Causerie, au-delà. Pourquoi donc, il y a 15 ans, le seul mot de Lourdes faisait-il tant rire? Une sorte de néo-voltairianisme, représenté par quelques ricaneurs de l'école normale et quelques abrutis de la franc-maçonnerie, régnait alors. Rien n'était si ridicule que Lourdes. Le dernier mot de la cruauté était d'appeler quelqu'un lourdeau. Les lourdeaux, mais c'étaient les gens qui allaient à Lourdes. Et les plaisanteries pleuvaient sur eux, les pierres grêlaient sur leurs bourdons de pèlerins. Il n'y avait pas de gaudrioles plus à la mode que les gaudrioles sur Bernadette. L'idée de cette grotte miraculeuse, de cette bergère visionnaire, de ces fontaines enchantées, où l'on entrait malade et où l'on sortait sans guéri. Et tout cela, sous la constitution Vallon, quand M. Edmond Abou faisait de l'esprit, M. Berthelot de la chimie, et M. Cambertin des discours. On n'imaginait pas quelque chose de plus bouffon. Eh bien, tout cela, maintenant, ne semble plus bouffon. Et nous le voyons sous un tout autre jour. La philosophie a eu ses vaudevillistes. Mais ils ont passé, comme passent les vaudevillistes. Et M. Émile Zola incarne vraiment en lui, en ce moment, l'esprit de la génération active, en étudiant, comme il les étudie, le spectacle et les phénomènes de ces populations de croyants et de malades qui accourent se prosterner, se plonger dans les piscines pour implorer des miracles. Jadis, jamais, il y a 15 ans, un écrivain vivant avec son temps n'aurait eu la pensée d'aller à Lourdes, d'y venir respectueusement, sans préjugés, et d'y observer avec l'émotion qu'elle mérite ces foules douloureuses qui arrivent y chercher l'espoir. Une transformation intellectuelle s'est donc véritablement opérée, et l'esprit d'aujourd'hui n'est donc véritablement plus celui d'hier. On ne badine plus, bafoue plus la dévotion. On la considère avec une déférence inquiète, comme avec l'envie et la crainte d'y retourner. On paraît se dire, oh, si la vérité par hasard était là. Et nous en sommes au doute mystique qui nous ramènera peut-être à la foi. Le matérialisme n'est pas une atmosphère respirable. On peut y plonger comme sous la mer, y passer comme sous la terre, mais on n'y reste jamais longtemps. Encore même faut-il, pour le temps qu'on y demeure, toutes sortes de préparations et de procédés, de scaphandres de tunnels philosophiques. L'homme, en résumé, a besoin d'un au-delà, d'un ciel où se lèvent le soleil et les étoiles. Et quand on consent à voir les choses avec une indépendance réelle, bien dégagée de tous les partis pris, on est obligé de reconnaître, en dehors même de la foi, par l'étude sincère des faits les plus évidents, que l'esprit religieux, dans la condition humaine, est le seul état d'esprit raisonnable et naturel. Nous vivons et nous mourrons au milieu d'un profond mystère, d'un mystère dont personne, depuis 4000 ans de légende, de littérature, de science et de philosophie, ne nous avait jamais donné le mot. En outre, nous avons encore une certitude bien acquise, c'est que non seulement nous avons toujours vécu, que nous sommes toujours morts dans le mystère, mais que nous y vivions et que nous y mourrons toujours. La seule sagesse, en ce cas, n'est-elle pas dans une humilité fondamentale, dans une attitude perpétuellement soumise devant cet inconnu sans limite, sans fin et sans commencement? Croyance absurde, dira-t-on, car il est absurde de croire à ce qui n'est ni compris, ni connu, ni prouvé. Oui, il est absurde de croire à ce qui n'est ni compris, ni connu, ni prouvé, lorsque nous pouvons prouver, connaître et comprendre. Mais là où nous ne pouvons ni comprendre, ni connaître, ni prouver, et où éclate cependant un fait supérieur et absolu, je veux dire le mystère qui nous enveloppe et nous engendre, les deux cas sont contraires, essentiellement contraires. Et s'il y a une absurdité, c'est de raisonner par analogie, là où l'analogie est absurde. Dominons la question et traitons-la en maître, en l'admettant ou en la niant, lorsque nous pouvons nous croire en mesure de la dominer. Rien de plus logique. Mais laissons-nous aussi dominer par elle et acceptons-la comme il convient, lorsqu'il est bien établi qu'elle nous domine. Réfléchissez bien et vous verrez que tout le génie et tout le bon sens de la religion et des religions réside dans cette humilité naturelle de l'homme en face de l'écrasante énigme de l'univers. Humilité qui revêt nécessairement des formes naïves, symboles de crédulité et de faiblesse, sans lesquelles elle ne serait plus réellement de l'humilité. De là, toutes ces dévotions et tous ces cultes par lesquels nous crions instinctivement notre soumission à l'infini. De là aussi, ce mythe significatif des anges rebelles, où l'orgueil est représenté comme le plus grand des péchés et le seul irrémissible, soit objecte une certaine philosophie, et nous ne prétendons pas nier le mystère du monde. Pourquoi seulement nous en préoccuper, puisqu'il est impénétrable, inaccessible, antérieur et supérieur à nous? L'objection serait raisonnable s'il dépendait de l'humanité de se préoccuper ou de ne pas se préoccuper de l'inconnu d'où elle sort. Et donc, malgré tout, sous une forme ou sous une autre, elle ne peut pas ne pas s'inquiéter. La conscience de cet inconnu existe chez tout homme. C'est encore là un fait évident et correspond chez lui à une faculté, à un organe moral, qui, comme tous les organes et toutes les facultés, demande à s'exercer sous peine de s'atrophier. Or, toute la question est là. Ma faculté, la faculté sentimentale qui correspond naturellement en nous au souci du grand mystère, peut-elle sans inconvénient nous être retranchée de l'homme? Que produirait, si elle revenait, générale, une pareille mutilation? L'objection serait raisonnable s'il dépendait de l'humanité de se préoccuper ou de ne pas se préoccuper de l'inconnu d'où elle sort. Et donc, malgré tout, sous une forme ou sous une autre, elle ne peut pas ne pas s'inquiéter. La conscience de cet inconnu existe chez tout homme. C'est encore là un fait évident. Il correspond chez lui à une faculté, à un organe moral, qui, comme tous les organes et toutes les facultés, demande à s'exercer sous peine de s'atrophier. Or, toute la question est là. La faculté sentimentale, qui correspond naturellement en nous au souci du grand mystère, peut-elle, sans inconvénient, nous être retranchée de l'âme? Que produirait, si elle venait de devenir générale, une pareille mutilation? L'hypothèse, je l'avoue, ne me paraît pas vraisemblable. Je me demande comment on pourrait mutiler sérieusement l'humanité de quoi que ce soit, physiquement ou moralement, par une mesure générale ou tout ce que je retiens, c'est que chacun possède une faculté particulière, plus ou moins développée, plus ou moins affinée, ou plus ou moins grossière, mais tout aussi réelle que le raisonnement ou la mémoire, et en vertu de laquelle il s'intéresse plus ou moins à la destinée universelle. On ne contestera pas non plus que cette faculté ne soit une faculté noble la seule faculté noble qui puisse se cultiver chez la masse humaine. Un artiste, un écrivain, un philosophe, un lettré pourront toutefois vivre noblement, c'est-à-dire en homme, quelles que soient les opinions, les croyances ou les dénégations qu'ils professent, sans que leur faculté noble, en vertu même de leur qualité d'artiste, de philosophe ou de lettré, ont trouvé leur emploi. Mais la foule des ignorants, des pauvres, des malheureux, des déshérités, des faibles, des petits, quelle faculté noble voulez-vous qu'ils exercent, sinon celle qui pense simplement à un inconnu qu'on révère, à un au-delà qu'on pressent et qu'on respecte? Nous ne sommes donc pas libres de rayer l'au-delà de nos préoccupations humaines. Il est dans les entrailles même de l'homme, dans son rang sang, dans sa chair. Il faut qu'il s'en occupe, qu'il lui fasse une place dans ses pensées, soit pour le nier, soit pour l'affirmer, soit pour y songer avec espérance ou doute. Et voilà pourquoi tant de convois de pèlerins vont à Lourdes. Ils vont s'y rapprocher de l'inconnu, implorer le mystère, le contempler sous une forme visible. Et rien n'est plus convenable à notre faiblesse et à notre cécité que ces prosternements et ces prières. Rien n'est plus inepte que de les railler. Toute une certaine libre pensée peut se résumer dans le mot populaire « faire le malin ». Et faire le malin devant l'éternel secret et l'énigme infinie me semble être en fait de grotesque tout ce qu'il y a de plus grotesque au monde. Maurice Talmer.